Deux lectures après la naissance de Jésus. Luc, évangile de Luc, chapitre 2. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 21. Le huitième jour auquel l'enfant Jésus devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et juste un verset un peu plus loin, Luc 2, 39, « Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, dans leur ville. » Et encore un verset, après la résurrection de Jésus, nous sommes fin de l'Évangile, chapitre 24, verset 44. « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Jusque-là, les lectures. Mais encore une fois, nous voulons nous mettre devant ce texte, devant ta parole, pour l'écouter, pour la méditer. Nous ne comprenons peut-être pas tout, mais nous demandons à ton esprit pour nous éclairer, pour que nous puissions vraiment comprendre ton message et entendre ta voix pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Dans le texte que nous avons lu, il y a une suite logique. Jésus est né, comme les prophètes l'ont annoncé, il est né à Bethléem, en Judée, le huitième jour. Jésus reçoit son nom, comme annoncé par l'ange. Il est présenté au temple, comme prévu par la loi. Après tout cela, retour de la famille à la maison, à Nazareth, en Galilée. Et après la vie de Jésus, la mort et la résurrection, petit bilan de ce qui était prévu. Tout était prévu. Vient ensuite, après l'ascension, retour à la maison du Père et fin de l'Évangile. Jésus naît, meurt, ressuscite, retourne. Et je vous propose de couper notre réflexion sur ce texte en deux parties. La loi. Et la deuxième partie, je l'ai intitulée « Siméon », mais c'est plutôt « Siméon et l'Esprit ». Mais d'abord, la loi. On s'arrête parfois difficilement sur ce thème. Aller lire tout le Lévitique, la loi de Moïse, c'est parfois lourd à lire. Et petit rappel, quand même, de Galates 4.4, c'est pas long à lire, juste un verset dans Galates 4.4, il nous est dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. » Tout bien résumé, Noël. Hein? Quand ça a été le moment, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus est né sous la loi juive. Sa mère est juive. Son père est adoptif et juif. Il est donc juif sous la loi de Moïse. Ça, c'est clair. C'est une chose. Il est sous la loi de Moïse. Et ici, je me suis un peu arrêté sur les termes loi, loi de Moïse. Les premiers versets, il est écrit la loi de Moïse, et c'est très peu employé dans le Nouveau Testament. Et l'évangéliste Luc le place judicieusement au commencement de la vie de Jésus et à la fin. Nous avons lu Luc 2, 22, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, chapitre 2, chapitre 24, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Nulle part ailleurs, on ne trouve ce terme « loi de Moïse ». Je reviens donc à mes expressions sur la loi, et je relis le verset 22 de Luc 2, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » J'ai souligné « Seigneur », suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. » Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles et deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. C'est étonnant. Et au verset 39, toujours deuxième chapitre, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur. Pourquoi répéter comme ça? C'est étonnant. Et dans le reste de l'évangile, vous ne trouvez ni loi de Moïse, ni loi du Seigneur, mais simplement loi tout seul. Jésus parle, vous et la loi, vous suivre. On ne trouve nulle part loi du Seigneur ni loi de Moïse. Et je me suis un peu mis à regarder. On voit un peu que la loi du Seigneur est nommée pendant la période où ses parents s'occupaient de Jésus. Daniel nous a rappelé la semaine dernière qu'il a été bébé et qu'il fallait le langer, le nourrir. Juste pendant cette période-là, on parle de la loi du Seigneur. On me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça ne nous intéresse pas. Moi, ça me montre que tout est précis dans la parole de Dieu. Et autre part, la loi, toute seule, est citée juste pendant le ministère de Jésus. Et la loi de Moïse, à l'entrée et à la fin, pour vraiment tout englober la vie de Jésus. Je tiens à préciser quand même que ces trois références font quand même référence à la loi de Moïse que Dieu a donnée à Moïse. Donc, on n'a pas trois lois différentes, ces trois expressions, mais trois périodes un peu séparées. La loi de Moïse aussi désigne la Torah, donc les cinq premiers livres de la Bible. Mais pourquoi prêter autant d'attention à ces détails? La loi. Les lois sont faites pour qu'on les respecte, et celle de Dieu n'est pas exclue. C'est délicat de parler dans le moment, pour l'instant, des lois. Dans le temps que nous vivons, les lois et exigences actuelles, c'est un peu sujet tabou, qui prête à désobéissance. Mais qu'en est-il de Jésus et de la loi de Dieu? Dans Matthieu 5, 17-18, voilà ce que Jésus nous dit. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non abolir, mais, vous le savez, accomplir. » Jésus est venu accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus lui-même confirme qu'il est venu accomplir la loi de son Père. Le sujet est vaste. Il nous faudrait quelques études bibliques pour cerner toutes ces lois que Dieu a données. Mais j'aimerais juste donner quelques pistes par rapport à notre texte de base. Et justement, en parlant de pistes, imaginez que vous êtes pilote d'avion et qu'il vous faut atterrir de nuit. Au-dessus, là, il faut atterrir. Vous savez que la piste, elle est là, mais les balises ne sont pas allumées. Il fait tout noir. Le risque est quand même très grand. De même, si les éclairages, on imagine que les balises sont allumées, mais elles sont à 10 km de chaque côté. On va aller où ? On ne sait pas trop bien. Et évidemment, si les balises sont à un mètre l'une de l'autre, l'avion ne sait pas se poser. Ça, c'est la loi, ça. Si elle est trop grande, on ne sait pas où on va. Si elle est trop serrée, on n'a pas envie. La loi de Dieu, la loi de Moïse que Dieu a donnée, oui, elle est étendue, elle est large, mais elle a beaucoup de balises et reprend beaucoup l'éducation pour essayer de canaliser le peuple rebelle. Mais elle est quand même un bon encadrement. Imaginez qu'on n'a pas de loi du tout. Mais dans cette loi que Dieu a donnée à Moïse, il y a quand même aussi pas mal de choses. Et elle reprend aussi des lois dites naturelles. L'exemple quand il dit de circoncire le huitième jour, comme Jésus, comme nous l'avons vu dans le texte, c'est parce que le taux de coagulation est au maximum. Plus on vieillit, plus ce taux devient mauvais. Dieu, notre Créateur, le savait. Jésus est ensuite présenté au Seigneur, suivant la loi du Seigneur et selon les lois cérémonielles, qui touchent plus le plan spirituel, la consécration, les sacrifices. Il y a une partie naturelle, une partie spirituelle. Et vous avez remarqué certainement que Joseph et Marie, vous avez remarqué qu'ils offriront deux tourterelles et deux pigeons. C'est pas grand-chose, hein. Mais ce qui montre quand même que Dieu a tout préparé et que même dans la précarité, on peut donner quelque chose. Pour les riches, il était prévu qu'ils donnent un agneau. Et oui, Jésus a accompli la loi, mais en a dénoncé aussi les excès. Nous avons tous en tête quand il chasse les marchands du temple, ou encore quand il déclare de rendre à César ce qui est à César, et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus a décrié les excès. Mais Jésus était jusqu'au bout sous la loi pour nous accorder la grâce. Ça, c'est très extraordinaire. Cette loi, oui, c'est peut-être lourd à digérer, c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est quand même elle qui nous montre que nous sommes pécheurs et que Jésus a été jusqu'au bout pour nous libérer. Et c'est aussi, mon deuxième point, Siméon, c'est dans le cadre de la loi aussi que Siméon sera là. Il nous a dit qu'il était juste et pieux, il respectait ce que Dieu avait prescrit. Et de plus, il attendait la consolation d'Israël et il était sensible à l'esprit. Oh, ça fait beaucoup de choses, ça. Quelque part, il n'est pas étonnant qu'il ait reçu une telle promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur, c'est la seule fois où on trouve cette expression, Christ du Seigneur. Pour Siméon, il n'est pas simplement le Christ. Le Christ, bon, non, il est Jésus, le Christ du Seigneur. Ce qui montre un niveau spirituel autre que la plupart de ses concitoyens. On n'est pas étonné non plus qu'il soit poussé par l'Esprit en ayant ce besoin de dire « mais c'est le Christ du Seigneur, Christ le Seigneur ». C'est quand même pas étonnant, et je répète cette phrase, qu'il ait été poussé par l'Esprit pour aller au Temple, juste le jour où Joseph et Marie accomplissent ce qui est prescrit par la loi vis-à-vis de leur enfant, le présenter. Présenter l'enfant au Seigneur. Et le récit nous indique aussi qu'il y avait Anne, la prophétesse, mais les autres, où sont les autres? Le grand prêtre, les scribes, les docteurs de la loi, des juifs pieux peut-être. Personne de Jérusalem ne s'est inquiété où il était. Personne. Jésus naîtra seul. Il mourra seul. Et pourquoi? Pour sauver tout le monde. Pour sauver le monde entier. Extraordinaire quand même. Quel contraste. Il meurt tout seul pour nous tous. Et là, il a juste Siméon et Anne, deux illustres inconnus qui n'apparaissent qu'ici. On ne les retrouve pas ailleurs. Ils sont juste dans l'évangile de Luc. Mais Siméon vit au rythme de l'esprit. Cette phrase interpelle. Vivre au rythme de l'esprit. Comment est-ce possible? Noël vient d'arriver, vient de se clôturer, Pâques n'est pas encore arrivé, l'Ascension non plus, et encore moins la Pentecôte. Donc, être rempli de l'esprit, c'est pas possible. Quoique, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est cité. À la création, la construction du tabernacle, dans la rencontre avec Balaam, dans le livre de Job, dans les prophètes Ésaïe et Ézéchiel, pour ne citer que l'Esprit est déjà là, avant la Pentecôte. Mais depuis quelques années, au temps où Jésus est venu, il se tait. Il n'y a plus rien. Dieu se tait. L'Esprit, il ne parle plus. Il ne fait plus rien. Il est au repos. Mais quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme enceinte de l'Esprit. Et c'est le même Esprit qui a averti Siméon. Siméon, à qui il a été dit, tu ne mourras pas, que tu aies vu le Christ. Et ce qui nous intéresse, c'est sa vie, la vie de cet homme, cette vie consacrée, cette vie pieuse, cette vie juste, cette vie selon l'Esprit de Dieu. J'ai juste marqué une petite réflexion pour moi, et je vous cite, que je me sens petit devant cet exemple et en même temps un peu jaloux. Je suis petit devant Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il attendait la consolation d'Israël. La situation était oppressante avec la présence des Romains. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai revu il y a quelque temps le film Ben-Hur, extraordinaire. Mais ce film montre vraiment l'atmosphère qui régnait à l'époque de Jésus, l'atmosphère que faisaient régner les Romains sur les Juifs. La tension était telle que ça aurait été comme une cocotte minute où on a bloqué la soupape qui est prête à exploser comme ça, un petit peu comme aujourd'hui. Que vivons-nous aujourd'hui? Ne sommes-nous pas sous pression? La soupape, elle va péter. Il doit se passer quelque chose. Ça va être quoi dans 10 ans? Mais qu'attendons-nous? Siméon attendait la consolation d'Israël. Le peuple n'avait pas besoin de consolation, mais de liberté. Je répète mes deux questions. Que vivons-nous aujourd'hui? Qu'attendons-nous aujourd'hui? La consolation ou la liberté? Siméon connaissait tellement bien les écrits des prophètes qu'il savait pourquoi le Messie était appelé par les rabbins Menachem, qui veut dire consolateur. Ils attendaient un consolateur. Dans Ésaïe, il nous est dit « Consolez mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. On aura envie, actuellement, de répéter ça. Consoler et préparer la route du Seigneur. Nous connaissons cette finale, le discours de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus. Jésus, consolation. Et rappelons-nous ces paroles dans Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus, étonnamment, demande un autre consolateur. Un autre consolateur. Le consolateur actuel, en l'occurrence lui, sera remplacé par un autre consolateur permanent, le Saint-Esprit. Siméon était rempli de cet esprit. Siméon était un homme béni. Il connaît sa Bible, il met en pratique. Il aime la justice, il écoute l'esprit et il attend la venue du Messie. Il attend la venue du Messie. Et j'ai trouvé un texte extraordinaire. Voilà ce qui nous est dit dans un livre que j'ai trouvé, d'un livre de 1933, intitulé « Jésus raconté par le Juif errant » de Edmond Flegg. Voilà ce qu'il nous est dit. En ce temps-là, on attendait le Messie. D'actualité, hein. Mais comprenons-moi bien, on attendait ce qu'on appelle attendre. Ce n'est pas une de ces phrases comme aujourd'hui, quand nos rabbins, dans leurs prières, font semblant de l'appeler en se disant « in petto », qui veut dire « qu'est-ce que tu risques ?» Non, c'était autre chose. Tenez, pendant la guerre, dans les tranchées, sous les bombes, comment attendiez-vous la paix, monsieur? Avec votre peau, avec votre sang, avec vos tremblements. Eh bien, voilà tout juste comment j'attendais le Messie, il y a 19 ans. Siméon attendait le Messie de la même manière, avec ses tripes, avec sa piété, avec sa justice, avec tout ce qu'il était. Il attendait l'avenir de Jésus. Il attendait son Sauveur. Je vous répète mes deux questions. Que vivons-nous aujourd'hui? Qu'attendons-nous aujourd'hui? En conclusion, si j'ai voulu insister sur deux parties de la loi et la vie de Siméon, ce n'est pas que les deux ne sont pas liés. Nous avons vu que Jésus est né sous la loi divine et que Siméon était un exemple vis-à-vis de celle-ci. Il n'en est pas moins un homme vivant, selon l'Esprit de Dieu. Cet extrait de la parole de Dieu nous rappelle que nos vies sont liées à la terre et qu'en tant que chrétiens, notre esprit est lié au ciel. Nous sommes soumis aux lois terrestres, mais également aux lois célestes. Et quand on pose la question à Jésus, quel commandement il faut appliquer, il résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Quelquefois, on est peut-être mieux d'aller porter un pigeon ou un mouton, hein ? C'est même plus facile, non ? Tu aimeras le monde, tu aimeras Dieu avec tes tripes. Avec tes tripes. Alors s'il nous venait peut-être l'idée d'imaginer ou de devoir prendre une décision, ou même une opposition, prenons un moment avec notre Seigneur et posons-nous les bonnes questions. Est-ce que ce que je dis ou fais est à la gloire de Dieu et selon sa loi ? Est-ce que ce que je dis ou fais peut nuire à mon prochain ? Est-ce que ce que je dis ou fais est selon la conviction du Saint-Esprit ? Siméon attendait la consolation d'Israël. Elle est arrivée en la personne de Jésus. Nous-mêmes, nous pouvons bénéficier d'un autre consolateur en la personne du Saint-Esprit. Que dans ces moments troublés, nous puissions encore attendre la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si nous subissons ce que nous vivons, nous avons une espérance. Christ revient. Alors si on pouvait l'attendre avec nos tripes. Amen. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu nous as donné cette loi. Peut-être que nous ne comprenons pas tout. Mais tu nous as donné surtout cette grâce. Et ça, nous voulons la comprendre. Nous voulons nous l'accaparer. Tu nous as saisis pour que nous soyons tes enfants. Ô Seigneur, aide-nous. Aide-nous à t'attendre avec nos tripes. Parce que ta venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Amen.